Premier sujet ce matin, l'annonce hier en après-midi de Desjardins. Ils appellent ça une restructuration, là, mais appelons ça le ménage après le scandale du vol des données.
Oui, et j'avais un ancien boss, Paul, qui disait toujours « il y a des têtes qui vont rouler » dès qu'il y avait une petite affaire qui allait pas bien. Puis c'était une belle image parce que quand il y a une situation comme ça qui arrive, éventuellement, on analyse ce qui s'est passé, on analyse l'information qu'on a eue, la réaction que les gens ont eue et les responsabilités que les gens ont. Et là, M. Cormier s'en va renouveler potentiellement son mandat. Et là, peut-être que lui a jugé que pendant le scandale, on l'a mal informé, ou on n'a pas eu l'information totale, ou on a mal réagi, ou on a sous-évalué l'importance de ça. Et j'aimerais te ramener dans l'histoire. Retournons au début des années 2000. Il y a une compagnie qui s'appelait Enron aux États-Unis, qui avait eu un problème majeur, c'est-à-dire il y avait eu de la dissimulation d'informations, on ne consolidait pas des passifs de Special Purpose Entity, donc des espèces de coquilles qui gardaient des dettes, et donc on montrait un regard de l'entreprise ou une image beaucoup plus belle qu'elle était, et l'entreprise a fait faillite, ça a fait tuer le cabinet Arthur Andersen, et à partir de ce moment-là, les autorités ont dit « correct, on va mettre en place des lois ». Donc, il y a eu aux États-Unis Sarbanes-Oxley 404 et au Canada, la loi 198. Et la loi, ce qu'elle disait, c'était « vous devez mettre en place des contrôles, démontrer qu'ils sont efficaces et signer de votre responsabilité personnelle en tant que gestionnaire ». Et si, à partir de ce moment-là, des affaires comme il y a eu chez Desjardins, ça a commencé à être pris très au sérieux. Et probablement que dans la description de processus chez Desjardins, on pourra dire, au niveau de l'accès TI, puis des processus TI, il y avait une faille. Parce que, techniquement, si je rentre dans un centre de données avec une clé USB, puis que je télécharge beaucoup de données dans l'entrepôt de données, faudrait qu'il y ait un contrôle de détection qui dit « Youhou! Il y a quelqu'un qui a téléchargé pas mal d'affaires. »
Mais souvent, je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, ouais. Mais quand arrive une crise comme celle-là, c'est peut-être pas toujours, puis là, je vais faire un parallèle avec la politique, là, c'est pas toujours la faute directe du ministre, mais il y a une responsabilité ministérielle.
Mais ça va avec la job. Tu sais, si tu te payes 500-600 000 pour être responsable de toutes les TI, puis qu'il arrive de quelque chose d'un TI, c'est bien de valeur, mais t'es comme un coach de hockey. La différence, c'est que le coach de hockey, il saute des fois simplement parce que faut faire du ménage.
Mais dans le cas de Desjardins, ce que j'arrive pas à comprendre depuis le début, là, je suis pas le seul. J'ai des gens qui m'écrivent là, qui sont des spécialistes sur des questions de sécurité. Comment ça se fait qu'il était possible de copier des données personnelles sur des clés USB? Comment ça se fait que, techniquement, ça pouvait se faire?
Et, ben ça, je suis d'accord. Écoute, comme je te disais, moi, à l'époque, j'étais à la Banque Laurentienne, j'étais à la comptabilité et j'avais même pas le droit de copier un fichier avec une clé USB dans mon portable.
Il y a quelque chose que...
Vraiment... Tu sais, un fichier Excel là, de calcul que Pierre-Yves McSween faisait sur son ordi, j'avais même pas le droit au port USB tellement qu'on était contrôlant sur l'information. Alors, il y avait une faille dans l'entrepôt de données, mais peut-être aussi, Paul, qu'il y avait quelqu'un, puis là, il y a ça que je pense aussi. Là. Lui, techniquement, peut-être qu'il a utilisé aussi l'accès de quelqu'un d'autre pour avoir accès à l'entrepôt de données, tu sais. Des fois, il y a des gens qui sont laxistes ou qui se font se voler leur carte d'accès ou peu importe. Ça se peut, ça aussi. Tu prends la carte d'accès de ton collègue, tu vas à l'entrepôt de données. Je sais pas jusqu'où il y avait des autorités ou des capacités d'y aller. Mais okay. La leçon à tirer, c'est que ça prend juste un employé sans jugement ou avec des problèmes d'argent pour scraper la réputation d'une entreprise. D'ailleurs, quand tu entres dans une institution financière, on te fait toujours une enquête de crédit. Et les gens disent « Pourquoi on fait ça? C'est quoi le rapport? » Mais c'est parce que si t'es dans une institution financière, puis que ça va pas bien personnellement, puis que t'as des dettes, ben ça se peut que tu fasses des malversations pour t'en sortir parce que là où il y a de l'hommerie, tu sais, il y a de l'hommerie, tu comprends, il y a de l'humain, il y a de l'hommerie. Et donc, la personne peut se dire, je vais échanger des millions de données contre des cartes cadeaux Saint-Hubert. C'est ça qui arrive.
En tout cas, on verra bien. Chez BMO maintenant, la grande révolution bancaire est amorcée.
Oui, mais pas juste chez BMO, partout, mais c'est un exemple hier. Tu sais, BMO divulgue des états financiers. Il dit, bon, on a reculé parce qu'on a pris une charge de 357 millions attribuables à une décision de la banque, tu sais, d'accélérer la mise en œuvre de, bon, l'évolution technologique et autres. Mais on va couper des jobs, pourquoi? C'est parce que oui, on passe à la numérisation. Oui, on a commencé ça. Mais là, le futur des banques, ça va être ça. Ça va être des rationalisations d'effectifs. On va se concentrer dans les TI et le conseil. Tu sais ce que la Banque Laurentienne est en train de faire, c'est-à-dire virer sur le conseil et délaisser le transactionnel, c'est peut-être rapide, mais c'est l'avenir. Puis si on a une vision un peu futuriste, ben le transactionnel va devenir complètement numérique quand il n'y a plus d'argent en cash. Donc, les banques vont se transformer en services conseil. Les gens vont aller de moins en moins à la banque. Un jour même, je vais pouvoir dire, écoute, pourquoi m'arrêter aux banques canadiennes? Tu sais, si un jour on est capable de définir mon profil de risque, puis qu'on me fait une espèce d'application au Pierre-Yves McSween et un profil de risque, puis qu'il y a une banque en Europe qui dit, moi, je vais y prêter son 300 000 piastres canadiens pour son prêt hypothécaire, puis qu'on déréglemente tout ça, ça aussi, c'est l'avenir. Puis un jour même, moi, je vais vouloir faire des prêts personnels à du monde via des applications où on va me donner la bonne vision financière d'une personne. Et donc, la banque va tellement se transformer, ce sera peut-être plus l'intermédiaire seul et unique de nos transactions. Et c'est pour ça que les banques doivent rationaliser leurs activités, se concentrer dans le conseil, devenir notre espèce de portail unique pour notre vie financière, pour qu'on reste attaché à la banque le jour où tout ça va arriver. C'est pas pour demain, mais c'est pour quand. Chaque fois que je rencontre un haut dirigeant de banque, je lui demande, c'est pour quand cette transition de l'avenir? Et il me dit tout le temps, si tu penses qu'on y pense pas, mais on sait pas la réponse.
C'est une belle réponse. Merci.
Salut.
Salut, à demain, 7h21.